Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA. Alors on est bien content de vous retrouver cette semaine pour discuter un petit peu d'astronomie avec vous. Aujourd'hui on est deux dans le studio, Axel et Fred.
Ouais, salut.
Alors on vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur le site de l'émission, le podcast, sur le site de RDOA, rdwa.fr. Vous allez dans les émissions thématiques et là vous trouvez l'étoile polaire avec un L apostrophe. Vous pouvez trouver les 82 épisodes précédents et aujourd'hui c'est le 83e. On avance petit à petit dans la chronologie. On vous rappelle aussi que vous pouvez nous joindre à astro-rdwa@protonmail.com si vous avez envie de nous faire des retours, de nous faire des commentaires ou si vous avez envie de venir à l'émission dans la rubrique Nouvel Œil pour nous parler de votre rapport au ciel.
Si vous avez des questions aussi.
Aussi. Pourquoi pas. Alors, sommaire de cet épisode, on va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir pour voir un petit peu les constellations et les planètes qui sont visibles à la tombée de la nuit. Ensuite, on vous parlera de quelques actus du monde de l'astronomie. Puis ce sera la rubrique à Brac, où Axel, tu vas nous parler d'un discours de Edwin Hubble qui ouvre les portes de la galaxie.
Oui, c'est ça.
Tu nous diras tout ça. Et après la pause musicale, ce sera la rubrique astrale. Et là, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on appelle l'effet Yarkovsky et de la pression de radiation. On verra un peu ce qui se cache derrière ces mots-là. Voilà pour le sommaire de l'émission. On va démarrer avec le ciel ce soir. Axel, qu'est-ce qu'on peut voir quand le soleil se couche ?
Eh bien, on peut voir, je pense, je commence par les planètes, mais parce que c'est sûrement ce qu'on voit le plus tôt, après le coucher du soleil, et le plus vif, c'est toujours Vénus, à l'ouest.
Vraiment super brillante encore. Ouais,
super brillante, super haute. Et Saturne, c'est trop tard.
C'est fini, là.
Ouais. Si on a vraiment un horizon dégagé, on peut l'apercevoir.
Mais à l'ouest, elle se couche très tôt.
Voilà.
Quoi.
Mais par contre, au-dessus, Vénus, ouais, elle brille de mille feux. Et elle marque le début de la nuit en ce moment, la fameuse étoile du berger. Et puis, quasiment au zénith, on a Jupiter, qui est très haute dans le ciel aussi, qui commence à être moins brillante qu'il y a quelques semaines.
Elle est toujours bien là, mais c'est vrai qu'elle commence à baisser en magnitude. Ouais.
Et c'est la même chose pour Mars. Encore un peu plus loin dans cet axe que je vous fais là d'ouest en est, avec Mars qui est toujours dans les Gémeaux, entre Castor et Pollux.
Là, ça fait un triangle en ce moment, mais vraiment parfait. Quoi. Il y a un triangle, on va dire isocèle, c'est pas équilatéral, mais il y a vraiment Mars qui est à la pointe d'un triangle avec Castor et Pollux.
C'est ça.
Bien rouge.
Toujours, c'est ça, toujours avec son aspect rouge qui la caractérise. Voilà pour ce qui est des planètes. Je vous ai pas précisé que Jupiter se trouve toujours à côté d'Aldébaran dans le Taureau, à côté des Hyades, à proximité des Pléiades aussi, à côté de c'est toujours cette belle zone du ciel là qu'elle illumine en ce moment. En termes de constellations, qu'est-ce qu'on a de beau en ce moment à voir ? On a le lever du Lion en début de nuit, puisque la Grande Ourse est bien dressée sur le bout de son manche en ce moment. Cette casserole sur son manche. Et par rapport à la casserole, si on regarde sous la casserole, et c'est le lion qui se lève avec Régulus, l'étoile la plus brillante du lion. Et pour les auditeurs équipés, sachez qu'il y a plein de belles galaxies à voir dans le lion.
Ouais, il y en a pas mal d'objets qui sont sous la base de lion. Là.
Oui,
observer. Ouais.
Notamment le triplet du lion. Que j'avais fait une image, elle doit être visible avec les autres sur le site de Radio Diwa pour illustrer les podcasts. Oui. On a assez haute aussi dans le ciel, on a Capella, qui n'est pas très loin de Jupiter, qui fait un triangle en fait aussi entre Jupiter, Mars, Capella, ça fait un grand triangle. Capella qui est une étoile bien brillante, et alors en ce moment comme elle est bien haute, elle clignote pas beaucoup, mais souvent on la voit bien clignoter Capella. Au moment de son lever.
Changer de couleur, comme tu le disais là une fois. Ouais. C'est vrai.
Je la remarque souvent comme ça, oui.
On a Orion quand même, le début du... Dès la tombée de la nuit.
J'allais y venir, oui. Orion avec sa ceinture, ses trois étoiles alignées, très proches, assez facile à remarquer. Une fois que vous les avez, Vous remarquerez deux au-dessus et deux en dessous qui forment cette espèce de sablier. Moi, je le vois comme un sablier.
C'est vrai.
Un peu.
Ouais.
Voilà, avec Betelgeuse dans l'angle en haut à gauche, Rigel dans l'angle en bas à droite, des étoiles bien brillantes. Et puis cette petite tache, cette petite étoile un peu floue qu'on voit sous la ceinture. Et pourquoi elle est floue? Ben justement parce que c'est pas une étoile. C'est un des rares objets du ciel profond qu'on puisse voir à l'œil nu depuis nos latitudes. Et c'est la grande nébuleuse d'Orion. Et là, avec des jumelles, ça peut être intéressant à regarder. Et avec un petit télescope modeste, ça devient tout de suite renversant.
Ou alors avec un gros télescope et un oculaire grand champ.
Oui, aussi.
Ah, c'est bien aussi.
Oui, c'est sûr.
Et un filtre à nébuleuse.
Et oui, avec un appareil photo, là, il y a les couleurs qui sortent avec 5 secondes de pause aussi. C'est incroyable.
Très bel objet.
Voilà, que dire d'autre?
Bon,
on a
toujours
des constellations, pas très connues. Le lièvre sous Orion, on n'en parle jamais. Lièvre, parce qu'on le voit pas. Bon,
c'est
d'accord.
Peut-être pour ça qu'on en parle pas beaucoup.
Le lièvre, les ridans, la colombe, tout ça, toute cette zone sous Orion en fait, qui chez nous est très au sud.
Oui, très bas, c'est quasiment hémisphère sud en fait.
Ouais, qui se dilue beaucoup dans l'atmosphère, plus dense quand on regarde vers l'horizon, et des étoiles moins brillantes aussi. Mais bon, c'est des constellations quand même qui existent,
oui.
qui sont là. Et est-ce qu'il y a des objets à voir dedans? Sûrement.
J'avoue que je ne sais pas. C'est pas des zones que j'ai beaucoup observées. Comme tu le dis, c'est des constellations qu'on devine à peine. Je crois pas qu'elles soient très riches. Iridan, il me semble qu'il y a d'autres choses.
Iridan et quelques nébuleuses, quelques galaxies. Une petite nébuleuse planétaire.
Bah, on regardera ça pour la prochaine fois.
Oui,
on va potasser un peu.
Un rapport. Ouais. Je vous ferai même une image. Non, mais c'est vrai que c'est très au sud. Et là, il faut un horizon bien dégagé au sud. Voilà. Au nord, on a toujours...
Toujours la région circumpolaire, en face de la Grande Ourse et Cassiopée. Percée, qui est quasiment horizontale.
Oui, qui est bien haute.
Et voilà, je crois qu'on a fait un petit tour. Bah, et puis après, on peut quand même mentionner qu'à mesure que la nuit avance, le lion, lui, va prendre de plus en plus la place. Et qu'après, on a la réapparition du ciel d'été.
Oui.
Parce que si on prolonge toujours pareil cette l'arrondi de la queue de la Grande Ourse, on arrive sur Arcturus dans le Bouvier qui d'ailleurs se lève pas très tard, et ensuite on retrouve la Couronne, on retrouve Hercule, on retrouve Ophiuchus, et puis on retrouve une partie du triangle d'été. On l'a déjà dit en fait, le triangle d'été là il se couche au moment où en même temps que le soleil à peu près, mais il réapparaît très vite, en particulier Vega.
Oui,
très vite, il réapparaît en fin de nuit, quoi.
Oui, mais c'est ça, j'ai pu voir ça. Ouais, le coucher de Vega vers 20h, là, 20h30, qui se relève à 2h du matin, par là.
En fait, le triangle d'été, il passe vraiment juste sous l'horizon, là, en ce moment.
Ouais. Et Arcturus, dont tu parlais, se lève vers 23h.
Et Deneb, je me demande si elle se couche vraiment. J'ai pas regardé, mais il y avait un moment où j'avais l'impression qu'elle...
Qu'elle rase l'horizon.
Elle rasait vraiment.
À vérifier.
Ouais, on regardera. Voilà pour ce tour du ciel, crois.
Bah ouais.
Ok, très bien. Alors on vous engage à observer, que vous pouvez continuer à profiter de ce qu'on a dit au début, là, ces planètes. C'est vrai que depuis le mois de décembre, on est vraiment gâtés à ce niveau-là, avec toutes ces planètes visibles à l'œil nu, vraiment très brillantes. Donc là c'est terminé pour Saturne, mais il y a de belles observations de Jupiter à faire, ça c'est sûr. Là elle est vraiment haute, c'est le bon moment. On vous dit là, elle est en train de redescendre un peu en luminosité, donc faut pas trop tarder, mais c'est vraiment joli. Mars, bon, moi pour l'instant j'ai pas réussi encore à faire ce que j'appellerais une belle observation de Mars, parce qu'elle est quand même petite encore. Mais voilà, à l'œil nu c'est un plaisir. Moi, je trouve, je trouve que ça anime le ciel d'un éclat différent. Ces planètes qui sont là, c'est quand même... on rappelle, planète en grec, c'est un astre errant. Parce que les Grecs avaient vite remarqué en fait, qu'elle se déplaçait sur le fond du ciel. Et d'ailleurs, si vous observez un peu, là, ne serait-ce que cet hiver, vous êtes bien rendu compte que Jupiter a bougé. Alors bon, c'est un peu piégeux parce qu'elle a eu un mouvement rétrograde et puis elle est repartie dans l'autre sens. Donc en fait, elle stagne en fait autour du taureau depuis un moment. Après, Jupiter, elle est aussi plus loin. Alors c'est pire pour Saturne, mais les planètes, plus elles sont loin et plus elles bougent lentement aussi sur le fond du ciel. Par contre, Mars, là, en un mois, c'est flagrant. Elle était à l'extérieur de la constellation des Gémeaux. Et là, comme je disais, elle est vraiment rentrée à l'intérieur en mode de faire un petit triangle avec Castor et Pollux. Et c'est frappant. En un mois, elle a vraiment bougé sur le fond du ciel.
Oui, oui, bah, comme Saturne. Ouais. Il y a un mois, elle était au-dessus de Vénus.
Oui.
Deux semaines après, même pas une semaine après, elle était sous Vénus. Et maintenant, elle est couchée.
Après, c'est Vénus qui bouge aussi. Plus que Saturne, peut-être.
Oui. Bah, ouais, c'est un peu les deux. Hein.
Un peu les deux.
Ouais, ouais.
Ce Saturne, ça bouge vraiment lentement quand même, sur le fond du ciel.
Ah oui.
C'est cette impression-là.
Bravo, à vérifier.
À méditer. C'est plein de trucs à méditer aujourd'hui.
Ouais.
Et voilà, en tout cas pour ce tour du ciel. On va passer à la suite. On avait quelques actus là, du monde de l'astronomie à vous partager. Je vais commencer par vous parler d'un astéroïde géocroiseur. Donc, vous avez peut-être entendu ça. Un peu dans la droite ligne des annonces d'alignement planétaire au mois de janvier. On a déjà parlé de toute la mytho là, qu'il y avait eu autour de ça, alors que c'était n'importe quoi, même si effectivement on peut observer les planètes. Là, en tout cas, j'ai vu plusieurs articles qui passaient dans la presse grand public sur « Oh là là, on va se faire percuter par un astéroïde et tout ». Donc j'avais un peu envie de vous parler de la réalité de la chose. Donc c'est un astéroïde qui s'appelle 2024 Y4 et c'est a priori un rocher qui fait entre 40 et 100 mètres de longueur, de diamètre. Et donc effectivement les astrophysiciens ont calculé qu'il y avait une chance sur 43 que cet astéroïde percute la Terre le 22 décembre 2032. Mmh. Donc voilà, ça c'est la réalité.
Ça fait 2% de chance.
1 sur 43, ça fait un peu plus de 2%.
Ouais, 2,2.
Ouais. Voilà.
Mais ça a été revu à la hausse hier.
Alors, effectivement, en fait, le truc, c'est que on a peu d'informations pour l'instant sur réellement la trajectoire de cet objet.
C'est ça.
Parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a découvert. Donc là, ils sont par exemple, donc ils attendent déjà quelques mois. Dans quelques mois, maintenant qu'ils l'ont repéré, ils vont le suivre de près. Et donc, ils vont le suivre pendant quelques mois. Ça leur donnera déjà plus de précision pour calculer son orbite. Il y a aussi l'idée, ce qu'ils cherchent, ce serait est-ce que quelqu'un n'aurait pas pu le prendre en photo sans faire exprès, sans savoir que c'était lui.
Ah oui.
Donc ils cherchent comme ça dans des bases de données passées, s'ils ne peuvent pas repérer cet astéroïde il y a par exemple un an ou deux, parce que là ça leur donnerait carrément beaucoup plus d'informations sur sa trajectoire, et pour affiner et pour effectivement voir s'il y a un risque ou pas de collision réelle avec la Terre. Donc il y en a un, ce qu'on appelle un objet géocroiseur, croise l'orbite de la Terre, il peut tomber sur la Terre. Et on sait que ces objets sont surveillés dans le système solaire. Y a des organismes qui s'occupent de ça, de surveiller les objets potentiellement dangereux qui peuvent tomber sur Terre. Alors l'effet d'un astéroïde de cette taille-là sur la Terre, alors, il est à la fois important, à la fois pas important. Ça pourrait détruire une ville.
Une grosse ville.
Mais alors, c'est sûr,
pas des grosses villes dans tous les cas.
Mais alors voilà, le fait qu'il percute la Terre, c'est une chose. On rappelle que la Terre, c'est quand même 3/4 ou 2/3 de sa surface et les océans. Ouais. Donc la probabilité pour que cet astéroïde tombe en plus sur une grosse ville, là on atteint des trucs qui sont vraiment très faibles. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de ça, c'est parce que je vois qu'il y a ces effets d'annonce sur l'astéroïde et tout. Ouais. Et on va dire, bon, on se calme. Tranquillement. D'abord, il va falloir l'étudier, voir, calculer si effectivement il va vraiment tomber. Et aussi, on sait aussi depuis plusieurs années, on a développé des programmes qui permettent de dévier les astéroïdes de leur trajectoire, justement, pour protéger la Terre d'un impact potentiel. Parce que par contre, il y a un risque réel.
Ouais, mais alors ça, j'ai lu, et je sais plus la source, et je suis pas allé vérifier plus que ça, donc à prendre avec des pincettes, mais j'ai lu que c'était peut-être déjà trop tard pour monter une mission de type DART pour aller le percuter. Trop tard dans le sens...
Il est trop près.
Pas dans le temps vraiment, mais dans la trajectoire, dans des histoires de mécanique orbitale.
Je
envoyer
sais pas.
Quelque chose dans cette direction, il faudrait être que la Terre soit placée à tel endroit, faire des choses comme ça.
Oui, mais après, il reste quand même toujours l'option, même si elle n'est pas optimale, de balancer un missile dessus.
Juste avant qu'il arrive.
Alors, le problème, c'est que ça le fracture en plein de débris qui, eux, vont... Tu multiplies, en fait, le nombre d'impacts, mais sur des trucs qui sont beaucoup plus petits, dont une grande partie va être détruite par l'atmosphère, et où le risque, quand même, est beaucoup moins. Et ça, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour envoyer un bon gros missile.
Je ne me rends pas trop compte.
Donc, bon, en tout cas
il va être plus visible, hein, ils ne vont plus pouvoir l'observer dans 3-4 mois, je crois. Ils peuvent l'observer jusqu'au mois de mai,
Parce qu'il passe derrière le soleil.
Et puis après, plus rien pendant un moment. Et par contre, il refait un passage près de la Terre en 2028, où là, il n'y a aucune chance qu'il percute la Terre, mais il passe pas loin. Donc là, ils vont le réobserver. C'est vraiment à ce moment-là, en 2028, qu'ils pourront dire avec beaucoup plus de certitude si son passage de 2032 sera problématique ou pas.
Donc à suivre, mais pas de panique non plus.
Et je crois que même le James Webb Télescope a déjà un créneau prévu pour l'observer dans l'année. Un moment où depuis la Terre, on ne pourra plus l'observer. James Webb, qui est à 1,5 km de la Terre, pourra, lui, l'observer.
Ouais. Voilà. On suivra ça dans quelques temps. Voilà pour la première actu. Alors ensuite, Axel, je crois que tu avais deux, trois petites choses à nous dire.
Oui, d'abord une chose très rapide, une bonne nouvelle. Pour les astronomes, mais aussi pour les naturalistes et pour tous les animaux nocturnes.
Les insectes,
oui. Puisqu'il y a une nouvelle réserve internationale de ciel étoilé et Cocorico, une nouvelle de plus en France, ce qui en fait de la 6e en France et la 22e dans le monde. Donc la France était déjà bien représentée, mais on continue à prendre de l'avance dans ce domaine avec cette nouvelle réserve de ciel étoilé qui se trouve dans les Landes de Gascogne. C'est le parc naturel des Landes de Gascogne qui l'a implémenté, initié. Voilà, ils ont eu la labellisation mercredi dernier, mercredi 12, ouais, c'est ça. Donc voilà, bravo à eux.
C'est chouette, c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais. On rappelle que le sud du plateau du Vercors a été décrété réserve internationale de ciel étoilé il y a 2 ans Un peu plus. Ouais, quelque chose comme ça.
Un an.
Un an et demi.
Oui, voilà.
Ouais. C'est ça. On en avait parlé.
C'était l'été 2023.
Voilà. On en avait parlé dans l'émission et on s'en était réjoui. On rappelle que ça a une conséquence sur la réglementation en termes d'éclairage urbain, enfin nocturne. Éclairage public, en tout cas. On avait aussi dit que le problème, c'était que ça régulait pas forcément l'éclairage privé et c'était là aussi, il y avait encore des progrès à faire, mais en tout cas, donc Die est concerné par ça, puisqu'on est dans la zone, pas la zone principale, mais une zone,
la zone
périphérique,
zone tampon,
de cette risse du Vercors. Donc on se réjouit quand même de, plus il y en a des risses, et mieux on se portera.
Et à noter que celle-ci, c'est la première à être en plaine. Les autres sont plutôt dans des territoires montagneux.
Ah oui.
Et voilà, donc bravo. Et puis la deuxième info que je voulais vous partager. C'est des nouvelles mauvaises, on va dire, du satellite Gaïa qui avait été lancé en 2013 pour étudier des millions, même un petit milliard d'objets tout autour de nous, que ce soit dans la galaxie, mais aussi d'autres galaxies un petit peu. Mais c'était des étoiles en principe.
C'était un énorme catalogue d'étoiles avec une précision qui à l'époque était inégalée. Quoi.
Faire une carte en 3D, une précision inégalée comme tu dis. Et sa mission avait été prolongée jusqu'en 2025, je ne sais plus s'ils avaient donné une date précise, un mois précis. Mais l'échéance est arrivée plus vite que prévu puisqu'il a épuisé son stock de carburant et donc il ne peut plus être orienté. Il ne veut plus travailler, donc c'est la fin du satellite Gaïa. Mais c'est pas la fin de la mission Gaïa par contre, parce qu'il a envoyé tellement de données que le temps de tout traiter, de tout comprendre, de tout calculer, il y en a jusqu'à en 2030 à peu près pour finir de traiter ça. En fait, ils avaient déjà sorti des publications de catalogues d'objets de Gaïa à plusieurs reprises. Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5 déjà. Il y en aura encore une l'année prochaine, en 2026, et son catalogue final sera publié aux alentours de 2030, au minimum. Voilà, c'était le 15 janvier qu'il a cessé sa mission. Il a remplacé la mission Hipparcos qui avait été lancée au début des années 90, je crois en 89, qui avait le même objet, la même raison d'être, et qui avait prouvé que les satellites, les télescopes spatiaux étaient pertinents en astrométrie, ce qu'on appelle ça l'astrométrie, le placement, la géométrie de l'espace, un peu la géographie de l'espace.
Voilà. Je sais pas ce que Gaïa mesure exact. Enfin, il mesure la position, ça c'est sûr. Je sais que sur ce projet,
les aussi.
Mais voilà, me semble qu'il mesure aussi les mouvements des étoiles et aussi peut-être leur vitesse de rotation aussi. Enfin, bon, il y a plusieurs, il y a plusieurs paramètres en fait, autres que la position, qui sont mesurés.
Tout à fait.
Et en fait, ce qui est intéressant, donc là, on parle d'étoiles principalement hein, sur ce catalogue. On parle pas de galaxies, donc forcément, ces étoiles elles sont dans notre galaxie. Donc, arriver à faire un catalogue vraiment précis de toutes ces étoiles, bah, concrètement, ça nous permet de faire une carte de notre galaxie, en fait, tout simplement. Et donc de
voir comment elle évolue,
de voir sa structure, d'étudier tout ça. Donc ça aussi, ce catalogue de position d'étoiles, il a aussi un intérêt pour l'étude des galaxies. Parce que déjà, en étudiant la nôtre, c'est de la même façon que quand on étudie le Soleil, bah, ça nous permet de comprendre des choses sur les étoiles en général, même si il n'est qu'un cas particulier. C'est pareil pour cette mission Gaïa et pour notre galaxie qui est quand même la plus simple pour nous à étudier. Même si on ne peut pas tout voir, évidemment, parce que dès qu'on s'approche du cœur, on ne peut pas voir derrière le cœur.
Et puis c'est un milliard d'étoiles cataloguées, c'est énorme, et en même temps c'est...
C'est un centième de ce qu'il y a dans notre galaxie.
0,01%.
On est d'accord. Mais bon, en tout cas, ça fait avancer dans cette... En tout cas, ça fait avancer dans la connaissance de notre environnement direct. Quoi.
Ouais. Mmh. Voilà.
Et bien super, voilà pour ces actus. On va passer à la rubrique Abrac. Et donc cette semaine, Axel, tu voulais nous parler... Alors Edwin Hubble, on a déjà parlé de lui.
Dans la 11e émission.
Dans la 11e émission, ça nous amène quand même il y a quelques temps.
Ça date un peu, oui.
Est-ce que tu présentes un peu ou tu veux que je le fasse, Edwin Hubble, ou tu as prévu de parler un peu rapidement de qui il est ou
Non, j'en parle pas plus que ça. Non.
Pour aller vite, Edwin Hubble, c'est quand même un des grands, grands noms de l'astronomie. Et c'était donc un astronome qui travaillait beaucoup dans les années 20 et qui, en fait... À mesurer. Ben, je parlais la semaine dernière des décalages vers le rouge, des redshifts, donc je vous renvoie à cet épisode pour plus de détails. Mais il a étudié énormément de galaxies autour de nous, mesuré leur décalage vers le rouge, et il s'est rendu compte que toutes les galaxies s'éloignaient de nous. Et donc c'est la confirmation expérimentale de l'idée de l'expansion de l'univers. Quoi. Donc ça a été quand même quelque chose d'extrêmement important dans le développement de l'astronomie, on peut dire récente quand même, puisque ça a moins de 100 ans. Et c'est aussi lui qui, pour la première fois, avait, en déterminant ces distances, avait fait la distinction entre les galaxies et les nébuleuses aussi. Et
oui, c'est de ça dont je vais vous parler.
Voilà, donc là, je te laisse. Du coup, je te laisse la parole.
Et oui, en fait, on a déjà parlé de Edwin Hubble, mais j'en reparle parce que c'est l'anniversaire justement de cette déclaration, il y a tout juste 100 ans, enfin 2 mois près, hein, parce que j'ai pris un peu de retard dans mes chroniques. Mais bref, pour être précis, le 30 décembre 1924, Edwin Hubble prononçait un discours majeur dans l'histoire de l'astronomie et qui révolutionnait notre rapport à l'univers. Alors je pose le contexte qu'on connaît parfois sous le nom de « grand débat ». Ce fut de longues discussions, des prises de bec cordiales qui ont animé les astronomes pendant le début des années 20. La question, c'était de déterminer la taille de l'univers. Il y avait deux camps, en gros, qui s'opposaient. Le premier et le plus large pensait que l'univers était contenu dans notre galaxie, la Voie lactée, avec des estimations de taille allant jusqu'à 300 000 années-lumière de diamètre. Enfin... presque tout l'univers, parce qu'il était tout de même admis que les deux nuages de Magellan étaient en dehors de notre galaxie. Les nuages de Magellan, c'est parmi les galaxies les plus proches de la nôtre, et pour cause, c'est des galaxies satellites de la nôtre. On peut même les voir à l'œil nu depuis l'hémisphère sud de notre planète.
Que tu as eu la chance de faire.
je confirme. Et donc l'autre groupe, c'était ceux qui s'autorisaient à penser que l'univers pourrait être bien plus grand. C'était pas non plus nouveau, parce qu'en 1755 déjà, Emmanuel Kant, le célèbre philosophe, supposait déjà que d'autres galaxies puissent exister sans même que ce soit son domaine de prédilection. C'était dans son ouvrage Histoire de la nature et nature des cieux, un truc comme ça. Ouais. Alors parmi les plus connus des défenseurs du premier groupe, il y avait Arlo Shapley, un astronome influent établi à Harvard. Et lui, il en voulait pour preuve les déplacements de matière qu'il avait observés dans la nébuleuse d'Andromède, aujourd'hui appelée galaxie d'Andromède. Si on pouvait y observer des mouvements à l'échelle d'une vie humaine, ça indiquait forcément une relative proximité de l'objet, une petitesse de l'objet, et voilà. On avait Vesto Slipher, qui fut lui le premier à observer le redshift justement. le décalage vers le rouge. Il avait même déjà fait le lien avec le mouvement des objets. C'est comme l'exemple qu'on prend souvent, hein, c'est la manière du son d'une sirène qui est modulée pour le badaud assis à l'arrêt de bus. En fonction de si l'ambulance s'approche ou s'éloigne, le son change. Et ben, Slipher, il s'est dit que l'onde lumineuse pourrait elle aussi être déformée vers le bleu si l'objet se rapproche, vers le rouge s'il s'éloigne. Mais il a raté l'occasion de rentrer dans la légende, il n'a pas poussé plus loin son raisonnement. Il s'est contenté de se dire « c'est quand même étrange que toutes les nébuleuses spirales semblent s'éloigner bon. ». Un autre protagoniste, c'était Henrietta Swan Leavitt. En 1912, elle était embauchée comme simple calculatrice à la NASA. Et elle avait au passage fait le lien entre la périodicité des étoiles variables et leur luminosité apparente. Un lien qui permet de déterminer leur distance.
Ça, on en avait parlé, c'est aussi un point majeur de l'astronomie récente. Quoi. Ça, c'est clair, la relation luminosité, les CFI, de tout ça, c'est un truc de base. Quoi. Enfin, de base.
Je vous le rappelle en trois lignes. Oui. En gros, si on sait qu'un briquet se déclenche à intervalles réguliers, très précisément toutes les 8 secondes, mettons, on regarde n'importe où, on regarde quelque part, et on voit une sorte de lumière qui clignote toutes les 8 secondes, on se dit « Ah bah c'est un briquet ». Et on sait combien ça brille, un briquet. Du coup, on compare ce qu'on connaît de la brillance d'un briquet et ce qu'on voit là de cet objet qui brille toutes les 8 secondes au loin. Et la différence nous permet de déterminer la distance, la différence de luminosité. Il n'y a pas que des briquets de 8 secondes. Il peut y avoir, je sais pas, des flashs d'appareils photo de 15 secondes et autres. Mais voilà, des étoiles variables, périodiques comme ça, ça permet de trouver leur distance. On les appellera les céphéides, puisque... Une de ces étoiles briquées étalons dans l'espace se trouve dans la constellation de Céphée. Et Edwin Hubble, enfin, eh ben, il faisait partie de ceux qui imaginaient un univers bien plus vaste. Il utilisait le télescope de 2,50 m, un monstre de son époque, du mont Wilson, et notamment pour observer les nébuleuses spirales. Dans certaines, on observait déjà quelques étoiles, mais d'un nombre dérisoire comparé au peuplement de la Voie lactée. Mais la nuit du 5 au 6 octobre 1923, il découvre dans la nébuleuse d'Andromède une étoile variable de type céphéide. Son excitation était telle, pour cet homme pourtant réputé pour son grand calme, qu'il a écrit sur la plaque de verre photographique les lettres VAR et un point d'exclamation. Il était excité. Hein. Alors on trouve des images de cette plaque photographique et franchement je comprends pas comment il a pu voir la moindre étoile dessus. Et pourtant c'était une pause de 45 minutes d'exposition, je ne vois rien dessus mais bon.
Passons, lui il a
voilà,
vu.
Lui il a vu et les autres ont dit ok on voit, donc c'est pas à moi de juger. Et un an plus tard, après d'autres recherches et des observations ailleurs, en dehors de M31, il a observé dans M33 du triangle, dans M32, la satellite de M31. Dans le Sagittaire aussi, une galaxie, une nébuleuse spirale à l'époque, 6822, NGC 6822, qu'on peut observer. Voilà, il fait des observations et environ un an plus tard, il en fait un article dans le New York Times, pas un article scientifique, mais dans le New York Times, qui bien sûr ne fait pas la une. Il devait y avoir un match de football américain qui était bien plus important ce jour-là. Et puis vint ce fameux discours dont on vient de fêter l'anniversaire le 30 décembre 1924. Il était si formel et ses arguments si convaincants que sa théorie fut en fait très vite admise, alors même que son article scientifique dans une revue avec comité de lecture n'arrivera qu'en 29.
Mais c'est la date que j'avais retenue, 1929.
Oui, c'est ça. Mais en fait, 4 ans avant, déjà, tout le monde était d'accord pour dire il a raison, il a compris. Voilà. Sa découverte d'une de ses étoiles dans cette nébuleuse marque donc un tournant dans ses recherches et elle est signée la fin du grand débat. D'ailleurs, en réaction à cette annonce, Arlo Chapelet dira « Voici la lettre qui détruit mon univers. » Qui détruit, hein, vraiment. Il exagère un peu Arlo, enfin, bon, qui l'ouvre, qui l'étend, qui le redessine, ça aurait été peut-être plus juste. En tout cas, on ne saura jamais ce que lui, il avait perçu comme des mouvements dans la galaxie d'Andromède, puisqu'aujourd'hui, avec des moyens beaucoup plus pointus dont on dispose, on sait qu'à l'échelle d'une vie humaine, on voit pas.
C'est ça qui m'étonnait. J'ai vu des mouvements à l'échelle d'une vie humaine, enfin en plus, même pas d'une vie, parce que le mec il est astrophysicien.
Oui, ça fait 30 ans.
Voilà. J'ai pas 20 ans. De voir des mouvements dans Andromède, enfin là, je comprends pas. Donc je sais pas.
Ah oui. Ouais. Bon, on ne saura pas. Il en a jamais dit plus. Donc voilà pour cette petite histoire qui vient donc de fêter son centenaire. Faut songer quand même qu'il y a 100 ans. L'univers se limitait qu'à une galaxie, la nôtre. 100 ans, c'est pas si vieux. Hein. Il y a des humains vivant aujourd'hui qui ont plus de 100 ans. Bon, à l'époque, ils étaient sûrement très jeunes. Mais comme le dit si bien le vulgarisateur et vidéaste Bruce Benhamon, pour vos arrière-grands-parents, le terme « une autre galaxie », ça voulait rien dire. Ça n'avait aucun sens. Et puis en plus, cette histoire, mais comme d'autres, illustre très bien combien il est faux de dire que la science est un dogme et que les scientifiques ne sont que des pantins pour défendre les intérêts de je sais qui. Parce que ici, si dogme il y avait, c'était plutôt celui de la vision d'un petit univers et d'une galaxie unique. Mais il a suffi que quelqu'un apporte des preuves du contraire, et en l'espace de quelques mois, même les plus convaincus ont accepté l'évidence. Ça avait été le cas aussi avec la relativité, avec l'évolution des espèces, pour citer parmi les plus connus. Bref, des théories qui arrivent à contre-courant, mais qui sont administrées rapidement, c'est pas si rare en science. Pour peu que l'on présente, je le répète, des preuves solides.
Tout à fait. Et ben merci Axel. C'est... Enfin, je pense qu'il faut vraiment mesurer là, tout ce dont tu viens parler. Enfin, peut-être que ça a excité que les astronomes, mais c'est quand même un impact énorme en fait, sur la façon dont on envisage notre environnement. En fait. Et, enfin, de cette histoire des nébuleuses, bon, voilà, où tu as des taches floues, et de faire la différence entre ce que nous, maintenant, on appelle une nébuleuse, qui est en fait un nuage de gaz, et ce qui est une galaxie, donc un amas d'étoiles extérieures à notre galaxie.
Et immense.
Ouais. En fait, c'est énorme, le pas conceptuel, en fait. Enfin, oui. La vision que ça, ça génère. Enfin, d'un coup, comme tu dis, effectivement, il ouvre les portes de l'univers. Ouais. Parce que d'un coup, on arrive sur un truc beaucoup, beaucoup plus vaste. Et,
oui. Quoi.
Et c'est un pas conceptuel qui est vraiment énorme, en fait.
Puis ça aurait même changé l'intro de Star Wars dans une galaxie très très lointaine.
C'est vrai, il n'aurait pas pu dire
il
ça.
Qu'une.
Et ça c'est l'impact, oui. Je pense, voilà. Principal de cette découverte. On va passer à la pause musicale. Cette semaine, on va écouter un morceau des Beatles, Strawberry Fields.
Take you down. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
Et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors on va continuer le déroulé de cet épisode avec la rubrique astrale. Et cette semaine, je vais vous parler de pression de radiation et de l'effet Yarkovsky. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? La pression de, pression de radiation ou pression de rayonnement, c'est la même chose. En fait, c'est l'idée que la lumière, quand elle vient taper sur une surface, en fait, sur un objet, eh bien, elle va faire déplacer cet objet. En gros, c'est ça. Le premier à avoir eu cette idée, c'est Kepler, en 1619, qui en, voit, en observant les comètes, en fait, s'est dit, la queue de ces comètes, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas créée par, en fait, le flux de rayonnement solaire ? Donc c'est lui qui, le premier, a eu cette idée que la lumière pouvait avoir un impact sur le mouvement de la matière, à partir des comètes. Alors, si on va un peu plus... Alors, c'est là que là, moi, je trouve, sur la pression de radiation, il y a un truc qui n'est pas complètement évident à percevoir. C'est que la lumière, c'est des photons. Ces photons n'ont pas de masse. Donc, comment quelque chose qui n'a pas de masse peut mettre en mouvement une masse?
Oui.
Ça, j'avoue, et c'est pas réellement... Alors, la physique, en fait, elle fait une espèce de petite pirouette. Elle peut pas répondre frontalement à cette question. On parle de quantité de mouvement, en fait. On parle d'un transfert de quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement, c'est une forme de l'énergie, d'une particule, d'une onde. Enfin, de toute façon, c'est la même chose. Et c'est une de ces... Voilà, il y a sa vitesse, et il y a sa quantité de mouvement. Alors, pour une particule qui a une masse, donc à peu près tout, sauf les photons, cette quantité de mouvement, elle est définie comme le produit de la masse par la vitesse. Alors, en vecteur, pour ceux à qui ça parle, c'est un vecteur, la quantité de mouvement. Il y a une direction, une intensité et un sens. Donc, les photons, eux, leur quantité de mouvement, elle est donnée par une petite formule que je ne résiste pas au plaisir de vous donner. C'est H nu sur C. Donc, H étant la constante de Planck, nu étant la fréquence et C étant la vitesse de la lumière. Donc ça, ça vous donne, en fonction de la fréquence d'un photon, puisqu'on sait aussi que, que selon le type de rayonnement, les photons sont plus ou moins énergétiques, qu'un photon bleu contient plus d'énergie qu'un photon rouge. Donc on voit bien que ça dépend de la fréquence. De la même façon, les rayons gamma, les choses comme ça, qui sont extrêmement énergétiques, ont des fréquences très très élevées qui viennent agiter la matière vraiment profondément. Donc on a une quantité de mouvement qui est H nu sur C, voilà. Donc le photon qui n'a pas de masse a quand même une quantité de mouvement. Bon, on admet ça. Et en réalité, quand le photon il vient frapper contre une paroi, il va transférer, il va être absorbé, en fait, par la matière, et il va, du coup, donner sa quantité de mouvement à l'objet. Donc, évidemment, la matière, c'est quoi, hein ? C'est des atomes. Donc on a des noyaux et on a les électrons. Donc, en fait, le photon, il interagit avec les électrons de la couche supérieure des atomes de la matière. Alors, pression de radiation, c'est pas une théorie, hein, c'est une observation expérimentale maintes fois répétée. On en a déjà eu l'occasion de le mentionner dans cette émission. Par exemple, il y a tout un tas de... Alors c'est un peu plus que des projets, hein, mais de petits objets spatiaux, de petites sondes ou de petits satellites qui ont de grandes voiles solaires et qui, en fait, vont, en étant percutés par la lumière solaire, vont pouvoir avancer comme ça. C'était même un des modèles qu'on avait imaginé pour faire avancer des vaisseaux spatiaux. Alors le problème, c'est qu'en fait, elle est quand même assez faible, cette pression de radiation. Mais ce qu'il faut penser, c'est que dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour venir freiner les choses. Donc même si vous prenez un tout petit peu d'énergie par photon qui vous impacte, vous la gardez, vous n'êtes pas freiné. Donc c'était aussi un système qui fait qu'on accélère lentement quand même. On peut pas, et on ne peut pas décélérer non plus. Donc, c'est bien pour mettre en mouvement des choses, mais il y a quand même plein de projets à l'étude pour se déplacer dans l'espace grâce à des voiles solaires qui utilisent la pression des radiations. Donc vous imaginez la matière qui reçoit un rayonnement et bien qui va en fait absorber une quantité de mouvement dans le sens de déplacement du photon et donc qui va reculer et donc qui va avancer. Voilà. Alors ce qui est en fait ce qui est, si on veut aller un peu plus loin dans la compréhension du truc, il y a l'idée que ces électrons des couches extérieures des atomes qui viennent interagir en fait avec le photon, qui viennent l'absorber, donc ils vont être excités. Donc ils sont excités, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur une couche, on va dire, encore plus éloignée du noyau. Ils ont absorbé cette matière, dans cette quantité de mouvement, dans une certaine direction. Mais sauf qu'ensuite, cet électron, il va se désexciter. Parce que ce n'est pas stable pour lui de rester dans un état excité. Donc il se désexcite en émettant un photon, le même en fait, de la même longueur d'onde que celui qui a été absorbé. Sauf que cette fois, en fait, la désexcitation des électrons, elle se fait dans toutes les directions de l'espace. Donc en moyenne, quand vous avez plein de photons qui arrivent, en fait, la matière... Les électrons vont absorber une quantité de mouvement qui est orientée dans une certaine direction, mais eux, ce qu'ils vont réémettre, c'est réparti dans toutes les directions. Ce qui fait que si vous faites le bilan de tout ça, il y a vraiment une accumulation de quantité de mouvement dans une certaine direction. Ouais. Vous voyez le concept. Donc voilà pour cette pression de radiation. Et je vais parler maintenant de l'effet Yarkovsky. Alors, qui est un peu lié, même si en fait c'est un phénomène un peu différent. Et si j'avais envie de vous parler de cet effet cette semaine, c'est justement en rapport avec la première actu dont on vous a parlé aujourd'hui, à propos de cet astéroïde 2024 Y4. Et l'effet Yarkovsky, en fait, il concerne des astéroïdes qui vont avoir un diamètre inférieur à 20 km. Au-delà, il y a trop de masse en fait, ouais, pour que ça ait un impact. Et l'idée, c'est, vous imaginez un astéroïde qui tourne donc dans le système solaire, donc sur une trajectoire elliptique autour du Soleil. Et ben forcément, il a un côté qui est plus éclairé que l'autre. Il a un côté au Soleil, et comme la Terre, et il a un côté à l'ombre. Donc, en fait, il va absorber de l'énergie. Il est chauffé. Alors là, on parle de rayonnement thermique, hein, pour l'effet Yarkovsky. Il va être chauffé d'un côté. Le truc, c'est que cet astéroïde, il tourne sur lui-même, comme tous les objets spatiaux. Tout, oui, tourne sur soi-même, quoi. Donc en fait, il y a un temps de... En fait, il va mettre un temps pour se refroidir, en fait, pour évacuer cette chaleur. Donc il va, en fait, absorber un rayonnement thermique d'un côté. Il va tourner. Et en fait, il va réémettre ce rayonnement thermique un peu plus tard, quand il se refroidit. Mais du coup, dans une autre direction.
Et puis, donc, en plus, ils sont pas ronds. Ils peuvent avoir des formes un peu... Si c'est un ballon de rugby, il va prendre plus d'énergie du côté large, oui, que du côté pointu.
Oui. Voilà. Ouais. Et c'est ça l'effet Yarkovsky, en fait. C'est un refroidissement décalé dans le temps qui fait que la réémission des photons... Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la pression de radiation un peu avant, parce qu'il y a cette idée de lien entre l'émission d'énergie ou l'absorption d'un photon et une modification de la quantité de mouvement de l'objet. Et un vrai effet sur sa dynamique, en fait. Donc, quand vous... Donc je redis, voilà, vous absorbez... Le côté soleil absorbe de la chaleur. Et cette chaleur, comme l'objet a tourné sur lui-même, va être réémise dans une autre direction. Donc, on peut très bien imaginer, par exemple, et c'est ça qui est un peu contre-intuitif à la base, c'est que si vous avez un astéroïde, on a l'impression que la pression de radiation, elle va forcément le pousser, l'éloigner du soleil. Mais en réalité... Il y a les deux effets qui se combinent, et cet effet Yarkovsky, lui, il peut, si l'astéroïde, par exemple, il a fait un demi-tour avant de se refroidir, en fait, il va être poussé vers le Soleil.
Oui.
Et en fait, d'une façon... Alors, ça peut aussi l'éloigner, ça dépend comment il tourne, etc.
Oui,
ça dépend de sa
forme.
Ça dépend,
oui,
de sa vitesse de rotation, oui, ça dépend de plein de choses. On ne peut, oui, pas, oui, faire de grosses généralités. Mais en tout cas, l'effet Yarkovsky, ce qu'il dit, c'est que c'est ce décalage dans le temps associé au mouvement sur lui-même de rotation de l'objet, qui fait qu'on va avoir une modification de son mouvement. Et donc ça va avoir un impact sur sa trajectoire, donc sur l'excentricité de son orbite, sur l'inclinaison de l'orbite, et même sur la vitesse de rotation de l'objet.
Ouais.
Et ce qui est en fait, là où ça intéresse un peu les gens, et où ça rejoint un peu donc cette actu que je vous ai donnée, c'est qu'il y a pas mal certains objets de la ceinture principale, hein, la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter, eh bien, on observe qu'ils peuvent être d'un coup déstabilisés par effet Yarkovsky et venir en fait vers la Terre. Donc c'est pour ça en fait que ça intéresse les astrophysiciens d'étudier un peu plus précisément ce mécanisme. Et d'ailleurs, cet astéroïde là, 2024 Y4, il le subit, l'effet Yarkovsky. Et ça pose, comme on ne maîtrise pas vraiment beaucoup, enfin complètement, on n'arrive même pas à savoir sa taille, entre 40 et 100 mètres. Donc c'est quand même pas super précis. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de sa forme réelle. On ne sait pas. Donc on ne peut faire aucun calcul. Et donc en réalité, si on veut affiner la prédiction de chance qu'il a de venir percuter la Terre, et ben il faut affiner déjà la connaissance de l'astéroïde lui-même, et il faut aussi affiner notre connaissance de cet effet Yarkovsky qu'il subit. Et donc cet effet-là, il a été étudié par la sonde OSIRIS-REx, donc ça, elle était partie en 2019, qui était venue se placer autour de l'astéroïde Bennu pour vraiment observer justement cet effet-là et voir un petit peu... en apprendre plus pour être plus capable d'anticiper, mais quand même derrière avec cette idée que cette réserve d'astéroïdes qui est la ceinture principale peut vraiment constituer un danger quelque part pour nous, puisque par cet effet, on peut déstabiliser des objets de leur orbite et les amener vers la Terre.
Ça va. Faut pas que ça tombe dans l'oreille d'un ministre des armées.
Pour envoyer le caillou sur le pays d'à côté. Ouais. Merci de lui avoir donné cette idée. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter cette semaine.
Très bien, merci Fred.
On va clôturer là cette émission.
Ah oui, moi je pense. Pardon, je pensais, ça me rappelle cette histoire qui a jamais été testée, mais de. Qui était envisagé, possible, d'aller peindre une face d'un astéroïde, si c'était en noir ou en blanc, je ne sais plus, justement pour accumuler plus de chaleur ou pas, ou en renvoyer plus, et ainsi dévier sa trajectoire en utilisant cet effet.
Effectivement, c'est clairement une idée envisageable, et puisqu'il s'agit ici d'un rayonnement thermique, et on le sait, en fait, toutes les surfaces noires absorbent plus les rayonnements thermiques que les surfaces blanches, bon, ça c'est qui réfléchissent en fait la lumière. Donc ouais, c'est clair, mais je crois pas que ça a été vraiment testé. Bah, évident, hein, aller peindre un astéroïde.
Il faut des litres de peinture et tout.
Enfin, ouais, non, enfin c'est quand même.
Non, c'est dans.
C'est des idées quoi.
Voilà, c'est ça.
Mais ce serait ouais.
Sur qu'on doit. Par contre, aller envoyer une fusée dedans, ça on sait faire, c'est bon.
Ça on
l'a déjà fait. La
tout casser, ça,
d'art,
c'est toujours plus simple.
C'est ça. Yes.
Ok, eh bien on va vous laisser là-dessus pour cette semaine. On vous souhaite de belles observations et à bientôt.
Ciao.